RFI, minuit à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous. Une demi-heure d'informations consacrée à l'actualité française. C'est 24h en France.
Christophe Paget.
À la une, la satisfaction du Rassemblement National. La justice parle d'un procès en appel pour Marine Le Pen avec une décision à l'été 2026, ce qui laisserait une possibilité à la chef de file de l'extrême droite pour participer à la présidentielle de 2027. Que sont devenus les mineurs de la Gaîté Lyrique? Nous ferons le point 2 semaines après leur expulsion du théâtre qu'ils occupaient à Paris. Ils étaient 450. Et puis constat de France Nature Environnement. Depuis 15 ans, des politiques de simplification du droit ont fragilisé les mécanismes de protection de l'environnement.
24 heures en France.
Dans une douzaine de minutes, direction le cinéma avec le film Fanon, qui se penche sur les années algériennes du psychiatre martiniquais et grande figure de la lutte anticoloniale. Enfin, le journal de l'Outre-mer se penche sur les conséquences du retour au pouvoir de Donald Trump pour les ultramarins qui souhaitent aller aux États-Unis.
RFI.
Le Rassemblement National est satisfait. La Cour d'appel de Paris envisage un procès pour Marine Le Pen avec une décision à l'été 2026, ce qui lui laisse une porte ouverte pour la présidentielle de 2027. Rappelons que la chef de file de l'extrême droite a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 années d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Les réactions à cette annonce à l'Assemblée nationale, c'est avec Victorien Villaume.
Une large partie de la classe politique salue l'annonce de la Cour d'appel de Paris, à commencer par les premiers concernés, le Rassemblement national, le député Laurent Jacobelli.
C'est vrai que si le jugement d'appel avait été rendu après l'été 2026, ça aurait été compliqué pour Marine Le Pen d'être candidate. On nous dit qu'il sera rendu avant. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça n'augure pas du contenu de ce jugement, donc nous restons combatifs.
La veille de cette annonce, le ministre de la Justice disait vouloir un délai de jugement en appel le plus raisonnable possible, mais n'allez pas croire que la Cour d'appel ne prend pas de décision indépendante, argumente Sylvain Maillard du camp présidentiel.
Le calendrier, il n'est pas fait par le garde des Sceaux, il n'est pas fait par le gouvernement, il n'est pas fait par la majorité, il est fait par les juges et c'est bien ainsi. Tant mieux, je crois que c'est une décision qui apaise et qui permettra de rejuger Madame Le Pen.
À gauche, on semble marcher sur des œufs dans un souci de continuer à défendre l'institution judiciaire. L'écologiste Benjamin Lucas.
Et moi, je respecte la souveraineté et l'indépendance de la Cour d'appel. Je constate simplement que Madame Le Pen a une forme de privilège, puisque la justice n'est pas aussi rapide pour d'autres accusés et d'autres prévenus.
Mais moi, je ne veux pas jeter l'huile sur le feu, on est dans un moment de tension.
Pour le moment, la Cour d'appel indique avoir été saisie de 3 appels au total.
D'autres réactions, cette fois la condamnation elle-même et aux réactions qu'elle a engendrées. On le sait, le Rassemblement National dénonce un jugement politique et la juge qui a condamné Marine Le Pen a été placée sous escorte policière après des menaces, notamment de mort. Et c'est dans ce contexte que ce matin, en Conseil des ministres, le président Emmanuel Macron a rappelé que l'autorité judiciaire était indépendante et que la justice devait être protégée. De son côté, le Premier ministre François Bayrou, qui s'était dit troublé après le jugement, a précisé ce mercredi que ses interrogations portaient sur l'application immédiate de la peine d'inéligibilité qui vise Marine Le Pen et non sur la peine elle-même.
24 heures en France.
Sortir la France du piège du narcotrafic. C'est l'objectif d'une proposition de loi sénatoriale qui a été largement approuvée hier à l'Assemblée nationale en première lecture. Alors, quelle est l'ampleur économique du trafic de stupéfiants dans l'Hexagone? Léonard Jochem.
Un marché, c'est un produit, des personnes qui le vendent et d'autres qui l'achètent. Côté vente, c'est le cannabis qui occupe la première place avec 5 millions de consommateurs et un chiffre d'affaires annuel d'1,2 milliard d'euros. Si on ajoute d'autres stupéfiants comme la cocaïne et l'ecstasy, l'ensemble du narcotrafic rapporte 4 à 5 fois plus d'argent, jusqu'à 6 milliards d'euros. D'après l'Office français des stupéfiants, 240 000 personnes sont de près ou de loin impliqués dans cette économie. Au cœur du système, 21 000 trafiquants en tirent l'essentiel de leurs revenus. Le marché de la drogue est bien ancré dans le territoire et ne se limite pas qu'aux grandes villes. La Cour des comptes remarque que les délits liés au trafic concernent de plus en plus de communes. Autre indicateur de la place centrale du narcotrafic dans l'économie, les saisies de cocaïne ont doublé en 2 ans. Pas étonnant, remarquent les experts qui notent que la marge pour les revendeurs peut aller jusqu'à 6000%.
Léonard Jochem. Le gouvernement l'a assuré ce mercredi par la voix de sa ministre du Logement. La lutte contre, je cite, le sans-abrisme est une de ses priorités. Lundi, c'était le dernier jour de la trêve hivernale et plusieurs associations se sont alarmées du nombre record d'expulsions locatives réalisées à la fin de la trêve hivernale de 2024. L'an dernier, 24 000 ménages, soit 50 000 personnes expulsées par les forces de l'ordre. Un chiffre inédit selon la Fondation pour le logement des défavorisés. Pendant ce temps, à Paris, le collectif des jeunes du parc de Belleville, qui regroupe plusieurs centaines de mineurs non accompagnés, prévoit de manifester ce jeudi devant le rectorat de Paris. Ils réclament une scolarisation pour tous les mineurs étrangers. C'est une de leurs revendications principales avec l'accès aux soins et à l'hébergement. On s'en souvient, il y a deux semaines, 450 mineurs et jeunes majeurs étaient violemment expulsés du théâtre de la Gaîté Lyrique qu'ils occupaient à Paris. Depuis leur expulsion, que sont-ils devenus ? Amélie Beaucourt est allée à leur rencontre.
Le 18 mars dernier, à l'aube, des dizaines de CRS encerclent le centre culturel où 450 mineurs non accompagnés avaient trouvé refuge 3 mois plus tôt pour passer l'hiver. Les jeunes, comme Mamadou, se dispersent alors dans toute la région.
Certains sont partis à Pont-Marie, certains sont partis à Gare du Nord, certains sont partis à Stalingram et certains encore sont partis à Montreuil là-bas. Comme certains ont été tabassés, gazés et maltraités, tout le monde avait peur d'être attrapé. On s'est divisé comme ça à travers de la ville, quoi.
L'alternative proposée par la préfecture, monter dans un bus en direction de Rouen. 6 sur 450 seulement ont accepté et 3 sont déjà de retour depuis.
On t'amène là-bas et on t'oblige encore à demander l'asile. Et tu es mineur, tu es dans tes procédures de mineur et tu ne peux pas faire la demande des fois ici à Paris, c'est interdit.
Le jour de l'évacuation de la Gaîté Lyrique, 25 d'entre eux interpellés ressortiront du commissariat avec une obligation de quitter le territoire. Procédure qui ne peut légalement être appliquée à un mineur. Plusieurs racontent que la police aurait sciemment modifié leur date de naissance. 200 jeunes se réuniront finalement sur les quais de Seine avant d'être expulsés à nouveau il y a 2 jours.
Un reportage signé Amélie Beaucourt. La France annonce qu'elle va porter plainte prochainement contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Plainte pour violation du droit à la protection consulaire concernant ces 2 ressortissants encore détenus dans le pays, Cécile Kohler et Jacques Paris. Objectif, accentuer la pression sur le régime iranien, explique le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui annonce aussi dans les prochains jours des sanctions européennes supplémentaires contre l'Iran. On ouvre maintenant une page environnement, avec d'abord ce constat de France Nature Environnement. Depuis 15 ans, les mécanismes de protection de l'environnement ont été fragilisés par des politiques de simplification du droit. La Fédération des associations de protection de la nature a sorti un rapport ce mercredi sur ce sujet. Un rapport qui, Pauline Berger, révèle que cette dérégulation touche de nombreux aspects du droit de l'environnement.
À commencer par la diminution du nombre de projets dont on examine les conséquences sur l'environnement, un danger pour la nature et la santé humaine, selon Morgane Piederrière, responsable du plaidoyer à France Nature Environnement.
Ne plus évaluer les impacts, ça les fait pas disparaître. Ça veut dire qu'il y a des projets qui se multiplient et qui ont des impacts graves sur l'environnement, sur la santé humaine. C'est aussi perdre une occasion pour le porteur de projet d'améliorer le projet. Donc au final, c'est perdant pour l'environnement, perdant pour la santé humaine, perdant pour les porteurs de projet.
Mais la régression du droit de l'environnement, c'est également moins de dialogue entre la société civile et les autorités. La gestion du récent projet d'autoroute A69 illustre particulièrement cet enjeu.
Les associations, dès le début, ont alerté sur ces conséquences et sur l'absence de conformité aux droits de l'environnement. Il y a eu un passage en force, les travaux ont quand même commencé, et au final, les associations ont eu gain de cause. La justice a reconnu que le projet n'était pas conforme aux droits de l'environnement. Sauf qu'entre-temps, avec les travaux, la biodiversité a été détruite, et pour le porteur de projet, c'est pas positif non plus, puisqu'il y a des investissements qui ont été faits, sur lesquels il va falloir revenir.
Pour France Nature Environnement, il est donc urgent que les députés se saisissent de ces enjeux, notamment à l'approche de l'examen le 8 avril du projet de loi sur la simplification de la vie économique.
Pauline Berger. Et on va maintenant s'intéresser à un procès hors normes qui débute dans quelques heures au tribunal de Vienne, en Isère. Il oppose une famille, la famille Grataloup, au géant de la chimie Bayer Monsanto, autant dire que c'est David contre Goliath. Alors, de quoi s'agit-il ? Sabine Grataloup est la propriétaire d'un centre équestre. Elle utilise un herbicide produit par Monsanto en 2006, alors qu'elle est enceinte, mais qu'elle ne le sait pas encore. En 2007, elle donne naissance à Théo, qui présente de graves malformations. Des médecins font alors le lien entre cette exposition prénatale au glyphosate et les malformations du bébé. Depuis, la famille se bat pour faire obtenir justice et éviter de nouveaux drames. Aux États-Unis, Monsanto a déjà été condamné pour des cas de cancer en lien avec le glyphosate. Mais c'est la première fois que le groupe Bayer Monsanto est attaqué pour des cas de malformation. Igor Strauss.
À la question « Comment ça va ?», Théo répond sans hésitation.
« Eh bien, ça va. Le moral est bon.
malgré, bah, comme vous l'entendez, certaines malformations et difficultés, je vis ma vie aussi bien que je le peux.
À 17 ans, il a déjà subi 55 opérations pour des malformations du larynx et de l'œsophage et une atrophie des cordes vocales qui lui donne ce timbre de voix si particulier. Sabine, sa mère, se rappelle de la naissance de Théo et de l'annonce du médecin.
Votre enfant n'a pas d'œsophage et son estomac communique avec ses poumons. C'est extrêmement violent.
En 2022, la famille Grataloup remporte une première victoire avec la reconnaissance par les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides du lien entre l'exposition au glyphosate et les malformations de Théo. Mais la colère de Sabine n'est pas retombée.
Minorer la toxicité d'un produit qui va être utilisé aussi massivement que le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé dans le monde. En faisant ça, ils ont condamné des enfants. Réellement, c'est criminel. Donc j'ai énormément de colère, parce que pour Théo, on ne peut plus rien faire. Mais le cœur de notre combat, c'est d'éviter qu'il y ait de futures victimes.
Ce matin, c'est une famille unie et combative qui se rendra au tribunal de Vienne pour tenter de faire condamner Monsanto. Igor Strauss, Vienne, RFI.
Direction maintenant Lourdes, dans le sud-ouest de la France, où c'est l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, qui a été élu à la tête de la Conférence des évêques de France. Ce proche du pape François va incarner pendant 3 ans l'Église catholique de France auprès de l'opinion publique. Et les dossiers qui l'attendent sont difficiles. Céline Béraud, sociologue à l'EHESS, spécialiste des violences sexuelles au sein de l'Église catholique.
La tâche est lourde. Succéder donc à Éric de Moulin-Beaufort, qui a vécu l'éclatement des scandales sexuels en France, dans le catholicisme français, au tout début de son premier mandat. Plus récemment encore, les révélations autour de l'abbé Pierre et autour de Bétarame, et donc de l'enseignement catholique. Et là, il y a un dossier qui ne va pas s'arrêter. Et puis, il y a bien évidemment une question plus générale des difficultés des diocèses français, qui sont en difficulté financière, pour beaucoup, en tous les cas, qui voient aussi le nombre de prêtres se réduire. Il faut repenser la place de l'Église catholique dans une société où le catholicisme a perdu son statut de majorité. Et là, il y a là, bien évidemment, un autre défi tout à fait colossal.
Céline Béraud, jointe par Sophie Volatier-Godard. RFI, minuit 12 à Lourdes.
24 heures en France. Christophe Paget.
Et c'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma dans l'Hexagone. On va s'intéresser ce soir au film Fanon de Jean-Claude Barny, qui se penche sur les années algériennes du psychiatre martiniquais, psychiatre et grande figure de la lutte anticoloniale. C'est une vision intime du quotidien de Frantz Fanon en Algérie qui nous est proposée. L'Algérie, période charnière de l'élaboration de son œuvre maîtresse, Les damnés de la terre, publié peu avant sa mort en 1961. Jean-Claude Barny répond aux questions d'Elisabeth Le Quéré.
Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Mais comment vous voulez changer les choses ici en Algérie ?
Jean-Claude Barny, bonjour.
Bonjour.
En quoi c'est important de parler aujourd'hui de Fanon ?
Pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de partager une parole qui manque à notre société. Fanon, c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir discrété sa parole, d'avoir moins eu envie de le mettre au centre de plusieurs débats qui étaient nécessaires dans son travail. Mais aujourd'hui, ce manque est flagrant.
La pensée de Fanon, vous l'avez découverte quand ? Alors, j'étais jeune, je crois.
Oui, j'étais adolescent et je vais avoir 15-16 ans. Et puis moi, j'habitais une banlieue Argenteuil et il y avait une bibliothèque où on avait accès librement.
Mais quand on a 15 ans, on se jette pas forcément sur Fanon ?
Non, c'est vrai. C'est que quand on a 15 ans, on se bat avec tout ce qui arrive parce qu'on est en échec scolaire, on est brutal, on se fait brutaliser. Et puis à un moment, il y a un bibliothécaire qui me tend un livre et qui me dit « Bon voilà, il y a peut-être que ce livre va t'intéresser. » Et puis moi, quand j'arrive, quand je lis ce livre-là, je me dis mais c'est d'une clairvoyance. C'est ça la vision de Fanon. C'est qu'il nous prépare à évoluer dans une société qui est fracturée et qui n'est pas forcément bienveillante.
Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être repris par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Oui, j'ai laissé plusieurs messages au cerveau. Détruire le monde colonial, c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfouir au plus profond du sol ou l'expulser du territoire.
Votre film commence quand Fanon arrive en Algérie, en l'occurrence à l'hôpital de Blida. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que Fanon est très partagé. D'un côté, il est par le titre français, puisqu'il est directeur de l'unité psychiatrique de l'hôpital. De l'autre, par le cœur, il est vraiment proche des Algériens.
Fanon n'a jamais renié le fait qu'il était citoyen français, mais il n'est pas d'accord avec toutes les actions que mène la France. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas vide de sens, il arrive déjà avec un vrai parcours par le fait qu'il est martiniquais et qu'il a déjà connu ça. Il connaît le sang, il connaît le cannibalisme, le vampirisme que porte l'accusation de son sein. Et ce qu'il n'a pas réussi à faire en Martinique, il va le faire avec l'Algérie. Et il va combattre.
Quand il arrive en Algérie, en 1953, il est médecin psychiatre à l'hôpital de Blida, mais très rapidement, il va s'engager auprès du FLN. Et en fait, le film trace un peu le tout, c'est-à-dire ses activités de psychiatre, ses activités clandestines auprès des malades du FLN, et puis aussi sa pensée. Puisque c'est en Algérie qu'il écrit Les damnés de la terre.
Fanon a cette faculté de ne pas voir la couleur. Il parle d'être humain avant tout. Et il soigne les uns comme les autres, mais avec quand même une détermination de ne pas laisser le colonisé seul face aux colons.
Jean-Claude Barnier, est-ce que Fanon, aujourd'hui, c'est une figure très connue?
C'est le premier film français de cette envergure, mais il y a une sorte d'aberration entre les remontées de terrain et la situation dans laquelle l'industrie se positionne. Les remontées de terrain, c'est que toutes les salles dont nous avons projeté ce film, c'est complet. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont curieux de ces travaux. Et de part et d'autre, c'est qu'il y a aussi un mécanisme de rejet industriel qui n'a pas envie de proposer à ses citoyens des postes de réflexion pour en discuter, déjà simplement. Et ça, c'est notre métier à chacun d'entre nous. C'est notre métier, c'est de titiller la société, de lui proposer des fois des projets, littérature, musicale ou cinématographique. Nous, on se bat pour ça.
Jean-Claude Barny, merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Jean-Claude Barny avec Elisabeth Le Quéré. Nous entrons dans une économie de guerre, c'est ce qu'annonçait la mi-2022 le président français Emmanuel Macron. Désormais, 3 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Europe veut aussi prendre son indépendance militaire vis-à-vis des États-Unis de Donald Trump qui se sont rapprochés de la Russie. Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne prévoit de mobiliser d'ici 2030 jusqu'à 800 milliards d'euros. Alors comment l'industrie s'adapte-t-elle? Justine Fontaine a visité une usine d'obus et de canons du groupe franco-allemand KNDS à Bourges, dans le centre de la France.
Ce qui frappe d'abord en arrivant à l'usine, ce sont les travaux d'agrandissement en cours. Là, un hangar provisoire. Ici, un trou de plus de 2 mètres de profondeur sur plus de 100 mètres carrés pour faire place à de nouvelles machines.
Ici, on est dans la dernière canonnerie de France.
Gabriel Massonnier, porte-parole du groupe franco-allemand KNDS, leader européen de l'artillerie. 90% des munitions fabriquées par le groupe en France partent en Ukraine, mais aussi beaucoup de canons César qui sont faits en partie dans cette usine. Ici, l'économie de guerre est déjà d'actualité depuis le début de l'invasion russe.
On a quand même investi 600 millions d'euros en fonds propres depuis 3 ans pour tripler la capacité de production de canons César, pour tripler la capacité de production d'obus de 155 mm qui sont tirés par le canon César. On a recruté, on a acheté des machines, on est en train de pousser les murs. Donc on a cette expérience de l'économie de guerre.
Avant 2022, le groupe fabriquait 1 à 2 canons César par mois. Aujourd'hui, c'est 6 par mois. De longs tubes de métal sur plusieurs mètres de long qui sont usinés ici, pas au millimètre près, mais au micromètre près. Kevin travaille ici depuis 10 ans. Il a vu les effectifs passer de 120 à 200 personnes et la cadence s'accélérer. Nous ne pouvons pas donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité.
Ça a doublé au niveau effectif dans la ligne depuis que je suis arrivé. Oui, avec l'augmentation, on a eu des demandes pour venir travailler les samedis sur volontariat aussi.
Sur sa ligne où sont fabriqués les tubes de futurs canons César, les salariés travaillent en 3-8, ce qui n'a pas toujours été le cas. Une dizaine de nouvelles embauches sont prévues cette année. Et l'entreprise, en parallèle, a demandé à ses fournisseurs, plus de 2000, d'accélérer la cadence, témoigne Laurent Monzauge, chef d'établissement KNDS à Bourges.
Tous nos fournisseurs, on les a accompagnés. Il ne s'agissait pas que KNDS soit en capacité de fabriquer 8 canons par mois et que nos fournisseurs restent à une capacité de 3 ou 4.
Dans certains cas, le groupe a avancé de la trésorerie. Il a aussi parfois dû changer de fournisseur. Aujourd'hui, ses carnets de commandes sont pleins pour 3 ans. Et avec la hausse annoncée des dépenses militaires en Europe, il pourrait encore se remplir davantage. Au total, en France, l'industrie de la défense emploie près de 200 000 personnes entre emplois directs et indirects. Justine Fontaine, de retour de Bourges, RFI.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une de ce journal des Outre-mer, le retour au pouvoir de Donald Trump qui impacte déjà les ultramarins qui souhaitent aller aux États-Unis. Lou Surence, bonsoir.
Bonsoir. Souvenez-vous, lors de son investiture, Donald Trump a affirmé ne reconnaître que le sexe masculin et féminin. Conséquence, tous les voyageurs à destination des États-Unis doivent inscrire leur sexe à la naissance sur leur demande d'ESTA ou de visa. Une véritable régression dénoncée par la communauté LGBT de Polynésie. Un reportage de Patrick Tsing-Tsing de Polynésie la Première.
C'est une case difficile à remplir pour Shelby Hunter. Indiqué son sexe de naissance. Le 27 avril prochain, notre Miss Transgenre 2024 s'envolera vers le Mexique. Elle sera membre du jury lors d'un concours de Holy Tahiti. Elle devra transiter par les États-Unis, une situation qui la préoccupe.
C'est encore un combat pour nous, la communauté LGBT, qui est un peu excessive et qui est encore sur les tabous du genre, alors que la vie fait son évolution.
Pour Karel Luciani, le président de l'association Cousin Cousine, ce nouveau décret pourrait entraîner d'autres problématiques.
Si c'est une femme transgenre, eh ben, elle a indiqué qu'elle était homme à la naissance. Et donc peut-être que si jamais il y a une fouille corporelle, par exemple, eh ben, peut-être que ce sont des agents de la sécurité masculins qui vont faire les palpations.
Le ministère français des Affaires étrangères ne mentionne pas explicitement que les transgenres pourraient être refoulés s'ils disposent d'une mention de genre X sur leur passeport ou s'ils ont changé de sexe. Toutefois, il invite à vérifier les éventuels changements ou nouvelles mesures adoptées aux États-Unis, en particulier pour les nouvelles demandes de visa ou d'ESTA.
Direction la Nouvelle-Calédonie où les habitants réagissent après la visite de Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer s'est envolé mardi 1er avril après 4 jours de discussions et de négociations sur l'avenir institutionnel du Caillou. Brice Bachon de Nouvelle-Calédonie, la Première, a promené son micro dans le village de Koné où les Calédoniens sont dans l'attente.
J'attends de leur part vraiment qu'ils trouvent une bonne solution, quoi, hein. Un accord entre eux, quoi, hein. Parce que là, ça devient insupportable, la vie. Hein. On ne s'en sort plus, quoi. Hein. On voit plus le bout de la corde, à l'autre bout, on n'arrive pas à le joindre. Ah non, c'est vraiment difficile.
Et moi, j'attends rien. Ben, le meilleur pour la Calédonie, parce que 40 ans de galère, et ça se pose des questions.
Moi, je voudrais bien que ça avance bien l'avenir, pour nos petits-enfants qui sont là.
Et le ministre des Outre-mer sera de retour en Nouvelle-Calédonie le 29 avril. À La Réunion, le collège de Beau Séjour à Sainte-Marie se focalise toute la semaine sur le bien manger. L'objectif est de rappeler aux élèves et aux parents les bienfaits des produits frais, sains et équilibrés. 15% des adultes réunionnais sont touchés par l'obésité et les enfants et adolescents ne sont pas épargnés. Alors pour François Fasquel, le proviseur du collège, il est important de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires. Il est au micro d'Amandine Rivière de Réunion La Première.
Les sixièmes, par exemple, toute la semaine, ils ont eu un petit déjeuner équilibré, offert, expliqué par une professeure de SVT. On a aussi offert un petit déjeuner équilibré aux parents d'élèves de sixièmes. Et ça, c'est une nutritionniste diététicienne qui est venue. J'estime que pour avoir un impact le plus large possible, il faut aussi que ça impacte au niveau pédagogique. Et c'est pourquoi les professeurs, je les remercie vraiment vivement, ils se sont impliqués. Et c'est grâce à toute cette mobilisation que finalement, on voit qu'il y a des changements dans les habitudes alimentaires. Les élèves eux-mêmes réalisent que peut-être qu'ils ont pris des mauvaises habitudes. Le pain bouchon au matin qu'on ramène à 7h, c'est pas forcément bon, comme boire les boissons gazeuses qu'on connaît très sucrées.
Et à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, ce mercredi 2 avril, direction la Guyane, à l'école Roland-Lucile à Kourou, où 14 enfants autistes sont accueillis dans 2 classes spécialisées depuis 2023. Les parents ont constaté de gros progrès depuis que leurs enfants fréquentent l'établissement. On écoute Cheryl Youssouf, parent d'un enfant autiste, et Étienne Gringer, professeur dans l'une des classes spécialisées. Ils sont au micro de Jean-Gilles Assa.
Il arrive à parler, il arrive à se faire comprendre, il a plus de sécurité. Il y avait vraiment les soignants autour de lui, un enseignement, un accompagnement adapté à sa personne.
Il faut avoir de la patience et beaucoup de répétitions, beaucoup de 80-20. C'est une formule que j'ai appris avec cette classe spécialisée. Donc je répète souvent 80% de ce qu'ils savent pour ne pas les mettre en échec. Et à chaque fois, je rajoute 20% de nouveautés pour qu'ils puissent se progresser.
Des témoignages recueillis par Guyane, la première. Bonne soirée sur RFI.
Bonne soirée, Lou Assurance.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et ce soir, Caroline Paré se penche avec son invité sur la santé du cœur.
Professeur Jean-Noël Fabiani-Salmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef du service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. L'âge, le vieillissement, c'est un facteur de risque pour la santé du cœur. Comment l'expliquer ?
Et parce que tout ce qui travaille énormément finit quelque part par se fatiguer. Et en particulier un organe qui, par exemple, fait plus de 4000 battements tous les jours et qui va, au cours de votre vie, faire 3 milliards de battements sans jamais s'arrêter, sans jamais faire de pause. Parce que s'il fait une pause, malheureusement, c'est la mort. Eh bien, il finit par se fatiguer. Donc, en effet, l'âge peut être une cause de vieillissement de l'organe.
Et quels sont ces signes d'alerte d'un cœur qui fatigue, des symptômes qui doivent pousser vraiment à consulter sans délai?
Alors, ce qu'on appelle habituellement cette fatigue, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, ça se traduit par un cœur qui grossit pour pousser le plus possible, mais qui en même temps est moins efficace. Autrement dit, le retour veineux va moins bien se faire, donc on va avoir tendance à avoir les mollets qui gonflent, c'est de l'œdème. On a tendance aussi à être essoufflé parce que le poumon n'est plus drainé comme il le faut. Et tous ces signes doivent alerter parce qu'ils sont extrêmement insidieux. Et à partir du moment où on a les mollets qui gonflent, qu'on a essoufflé, qu'on est fatigué, eh bien on doit consulter un cardiologue qui va vous donner des médicaments qui maintenant sont de plus en plus efficaces.
Merci professeur Fabiani-Salmon. Vous êtes l'auteur du livre « Votre cœur, cet inconnu » publié aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on donne la parole à des spécialistes qui prennent en charge des personnes concernées par ces troubles du neurodéveloppement, pédiatres, psychologues, éducatrices spécialisées, explications, accompagnement, inclusion, témoignages, à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est bien noté, à tout à l'heure Caroline Paré, et c'est la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Violet, la réalisation. Et à Loïc Bussière, à la rédaction en chef, dans quelques instants, place à Afrique Soir. Mais avant cela, un petit passage par la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones reprend 235 points et clôture à 42 225. L'indice du Nasdaq grimpe de 151 points et revient à 17 601. La séance, bien sûr, a été marquée par une certaine nervosité dans l'attente de l'annonce de vastes sanctions commerciales applicables à tous les partenaires des États-Unis, et ce, bien sûr, annonce que doit faire le président Trump. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a expliqué à plusieurs élus du Congrès que les surtaxes qui doivent être proclamées après la clôture de Wall Street représenteront un plafond et non pas un plancher, et que des négociations avec les pays concernés pourraient même les faire baisser. Cette interprétation, qui se veut rassurante, n'est pas nécessairement celle donnée par la Maison-Blanche, qui au contraire parle d'escalade possible si les pays visés prenaient des mesures de rétorsion. Les nouvelles de la conjoncture américaine aujourd'hui se révèlent meilleures que prévues. Les commandes à l'industrie augmente de 0,6%. Selon le sondage ADP, au mois de mars, les entreprises privées américaines ont créé 155 000 postes nouveaux, ce qui dépasse les prévisions. On note une belle hausse du cours de Tesla sur des rumeurs selon lesquelles Elon Musk, le patron du constructeur automobile, abandonnerait bientôt sa participation aux efforts de l'administration Trump pour réduire le poids de la bureaucratie fédérale. L'euro remonte à 1,0851, l'or grimpe encore et dépasse 3139 $ l'once, un nouveau record. Le baril de pétrole américain reprend moins d'1% et s'approche de 72 $. Le Dow Jones avance de 0,6%, le Nasdaq s'offre 0,9%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Enquête sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, quand la course au rendement financier de grands groupes efface la mission d'éducation d'une jeunesse. Quelle régulation, quel contrôle des autorités?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.